À 25 ans, quelques mois après la mort de son père, Gustave Flaubert entreprend un voyage à pied de 3 mois avec son ami Maxime Ducamp. Il parcourt l'Anjou, la Bretagne et la Normandie. Les voici dans le Morbihan, à Plouarnel. Nous étions levés, nous allions partir. Nous le vîmes passer, mais nous ne l'aperçûmes que par derrière. Qu'était-ce par devant? Qui donc? Le chapeau. Quel chapeau? Un vaste et immense chapeau qui dépassait les épaules de son porteur et qui était en osier. Quel osier? Du bronze plutôt. Dur et compact, fait pour résister à la grêle, que la pluie ne traversait point, que le temps ne devait que durcir et fortifier. L'homme qu'il recouvrait disparaissait dessous et avait l'air d'y être entré jusqu'au milieu du corps. Et il le portait cependant, je l'ai vu tourner la tête. Quelle constitution, quel tempérament il avait donc, quels muscles cervicaux, quelle force dans les vertèbres, mais aussi quelle ampleur, quel cercle ce chapeau. Il projette une ombre tout alentour de lui, et son maître ne doit jamais jouir du soleil. Ah, quel chapeau! C'est un couvercle de chaudière à vapeur, surmonté d'une colonne. Ça ferait un four en y pratiquant des meurtrières. Il y a des choses inébranlables, le simplon et l'impudence des critiques. Des choses solides, l'art de l'étoile et le français de la Bruyère. Des choses lourdes, le plomb, le bouilli et Monsieur Nizard de l'Académie française. Des choses grandes, le nez de mon frère, l'Hamlet de Shakespeare et la tabatière de l'ami Bouillet. Mais je n'ai rien vu d'aussi solide, d'aussi inébranlable, d'aussi grand et d'aussi lourd que ce chapeau de Plouarnel. Et il avait une couverture en toile cirée. Quelques jours plus tard, Flaubert et Maxime Ducamp trouvent à se loger dans une auberge de campagne. L'escalier tournant à marche de bois vermoulu gémissait et craquait sous nos pas comme l'âme d'une femme sensible sous une désillusion nouvelle. En haut se trouvait une chambre dont la porte, comme celle des granges, se fermait avec un crochet qu'on mettait du dehors. C'est là que nous gîtâmes. Le plâtre des murs, jadis peint en jaune, tombait en écailles. Les poutres du plafond ployaient sous le poids des tuiles de la toiture et sur les carreaux de la fenêtre à guillotine, un enduit de crasse grisâtre adoucissait la lumière comme à travers des verres dépolis. Les lits, faits de 4 planches de noyer mal jointes, avaient de gros pieds ronds, piqués de mites et tout fendus de sécheresse. Sur chacun d'eux étaient un matelas et une paillasse, recouvertes d'une couverture verte trouée par des morsures de souris et dont la frange était faite par les fils qui s'effilaient. Un morceau de miroir cassé dans son cadre d'étain, à un clou, un carnier suspendu, et près de là, une vieille cravate de soie dont on reconnaissait le pli des nœuds, indiquait que ce lit était habité par quelqu'un et sans doute qu'on y couchait tous les soirs. Voici Flaubert à Nantes, au musée. Je donnerais bien une paire de babouches marocaines qui l'étaient mais très commodes, je donnerais bien mes droits de citoyen, l'estime de mes compatriotes et le reste d'une bouteille de beau vernis qui commence à s'épaissir. Oui, je donnerai tout cela de grand cœur et sur l'heure pour savoir le nom, l'âge, la demeure, la profession et la figure du monsieur qui a inventé pour les statues du musée de Nantes des feuilles de vigne en fer blanc qui ont l'air d'appareil contre l'onanisme. L'Apollon du Belvédère, le discobole et un joueur de flûte sont enharnachés de ces honteux caleçons maléfiques qui reluisent comme des casseroles. On voit d'ailleurs que c'est un ouvrage médité de longtemps et exécuté avec amour. C'est escalopé sur les bords et enfoncé avec des vis dans les membres des pauvres plâtres qui s'en sont écaillés de douleur. Par ces temps de bêtises plates qui courent, au milieu des stupidités normales qui nous encombrent, il est réjouissant, ne fût-ce que par diversion, de rencontrer au moins une bêtise échevelée, une stupidité gigantesque. Malgré tous mes efforts, je ne suis parvenu à me rien figurer sur le créateur de cette pudique immondicité. J'aime à croire que le conseil municipal en entier y a pris part, que messieurs les ecclésiastiques l'avaient sollicité et que les dames l'ont trouvé convenable. Dans les villes, quoique la langue persiste, le caractère s'efface, le costume national devient plus rare. Refoulé qu'il est dans la campagne par l'envahissement progressif du tailleur et de la couturière, dont la petite boutique du rez-de-chaussée étale à son vitrail quelques belles gravures de mode qui fait envie. L'habitant de la ville petit à petit se désembretonne et arrive à s'écarter du paysan qu'il méprise de plus en plus et qui s'éloigne de lui davantage à mesure qu'ils se comprennent moins. Puis en regardant une brave domestique servir des œufs à la neige à un gros monsieur à lunettes d'or, inspecteur des contributions indirectes, je me disais « Voilà donc les deux sociétés face à face et le rapport final d'un siècle à l'autre. Le vieux portrait s'humilie devant la caricature moderne. D'où j'ai tiré cet axiome, le présent fait cirer ses bottes par le passé et ne l'en remercie même pas. » Le soir, nous allâmes dans un village des environs voir l'inauguration d'une aire à battre. deux joueurs de biniou montés sur le mur de la cour poussaient sans discontinuer le souffle criard de leur instrument, au son duquel couraient au petit trot, en se suivant à la queue du loup, deux longues files d'hommes et de femmes qui serpentaient et s'entrecroisaient. Les files revenaient sur elles-mêmes, tournaient, se coupaient et se renouaient à des intervalles inégaux. Les pas lourds battaient le sol, sans souci de la mesure, tandis que les notes aiguës de la musique se précipitaient l'une sur l'autre dans une monotonie glapissante.
Adieu, camarades, adieu, avec jamais.
En Bretagne, la mort est un homme, Langkou. La légende veut que ce soit le dernier défunt de l'année qui vienne faucher les vivants de l'année suivante. Et si on trouve une statue de Langkou à Ploumillot, dans les Côtes d'Armor, c'est que jadis, Fanchar Floche, le forgeron du village, commit le péché de travailler jusqu'à la veille de Noël pendant que Ploumillot était à la messe. Tout à coup, sa porte grinça sur ses gonds. C'était un homme de haute taille, le dos un peu voûté, habillé à la mode ancienne, avec une veste à longue basque et des braies au-dessus du genou. Il tendit sa faux au forgeron. Voyez, elle branle un peu. Vous aurez vite fait de la consolider. Au chant du coq, Fanch rendit l'âme, il venait de réparer la faux de Langkou.